le décor, le mobilier, l'ordre ou le désordre de la maison révèle la personnalité de son ou ses occupants. La maison est à la fois refuge et lieu d'accueil, espace de protection et d'exposition. Ses murs sont témoins des plus grandes souffrances et des joies les plus profondes. L'économie apparaît ainsi à l'origine, liée à une dimension existentielle de l'humain, son habitat. Lieu de construction personnelle et communautaire, lieu où l'on apprend à se connaître soi-même et à vivre avec d'autres. L'économie est en ce sens associée à un lieu vital, à un lieu où se bâtit la vie individuelle et collective de chaque personne. Certes, il s'agit surtout de la gestion des biens, mais notre rapport aux biens est totalement déterminé par la manière dont notre existence prend forme. L'économie est ainsi liée à l'origine de la vie, non seulement parce qu'elle procure les biens matériels nécessaires à la vie biologique, mais surtout parce qu'elle est associée à la construction de la vie humaine, individuelle et collective, à cet espace privilégié dans la vie d'une personne qu'est sa maison, son habitat. L'économie est donc un lieu de vie, un lieu où l'on apprend à vivre, un lieu où l'on construit sa vie personnelle et sa vie avec d'autres. L'économie est certes un moyen plutôt qu'une finalité, mais un moyen qui traduit les aspirations les plus profondes de chacun, et plus encore, un moyen qui nous oblige en permanence à définir nos finalités et nous apprend ainsi à faire des choix. C'est en général au moment où il faut décider de l'utilisation des ressources financières que les priorités se révèlent. Nous sommes prêts à soutenir beaucoup d'actions, mais c'est au moment où il faut y consacrer de l'argent que les véritables adhésions se manifestent. Nos choix de consommation, notre rapport aux biens, la gestion de notre budget mettent en évidence nos choix de vie, nos priorités, ainsi que les limites et les vertus, les attachements et les libertés qui sont les nôtres, sans que nous en soyons pour autant conscients. L'économie, d'ordinaire associée à la dimension matérielle de la vie, révèle tout autant sa dimension existentielle. L'expérience de la limite est un aspect fondamental de la vie humaine, nous l'avons vu. Or, cette expérience est au cœur de l'économie, c'est la rareté des ressources. L'expérience de la limite, c'est la rupture quand nous avons prévu la continuité, c'est l'absence quand nous attendions la présence, c'est le vide quand nous avions envisagé le tout plein. La contrainte financière est souvent évoquée comme une limite à la réalisation de nos projets ou de nos désirs. Combien de fois entendons-nous justifier le refus d'une requête par le manque d'argent? En fait, les ressources limitées obligent à faire des choix. Justifier le refus d'un projet par le manque de moyens n'est qu'une manière indirecte de dire que le projet n'est pas considéré comme prioritaire. L'économie définie toujours comme allocation de ressources rares entre des fins multiples, renvoie en fait à une expérience humaine fondamentale, celle de la limite. Une expérience qui n'appelle pas seulement des capacités de gestion et de redistribution. Une expérience qui ne se situe pas uniquement au niveau matériel, mais bien au niveau existentiel. Une expérience qui est d'ordre anthropologique, car elle nous rappelle que l'humain est marqué par sa finitude, que nous sommes des êtres radicalement incomplets et que le manque est constitutif de notre humanité. Or, c'est grâce à cette finitude que l'humain devient capable d'une certaine infinitude. C'est grâce à la limite que l'humain peut faire l'expérience de la transcendance. La limite est souvent associée à la perte, au manque, à l'incomplétude. Si, face à la limite, on essaye de réparer la perte, de combler le manque et de compléter l'incomplétude, il n'y a pas de transcendance possible. On reste dans une logique réparatrice. Si, en revanche, la perte permet de libérer des énergies nouvelles, si le manque met en mouvement vers un nouveau possible, si l'incomplétude pousse à chercher ailleurs, on ouvre l'espace à l'émergence du radicalement nouveau. On sort de la logique réparatrice et on s'inscrit dans une logique de création. La création sort du prévisible et du contrôlable. La création n'est pas une fabrication, mais une nouveauté radicale. La création est en ce sens une expérience de transcendance, car elle fait place à l'inattendu. C'est ainsi que la limite, expression par excellence de notre finitude humaine, rend possible cette autre expérience, aussi profondément humaine, mais radicalement opposée, de la transcendance. La création ne serait pas possible sans la limite. En situation de plénitude, de perfection et de complétude, il n'y a pas de place pour l'émergence du radicalement nouveau. C'est la limite qui nous transforme en créateurs. C'est notre immanence qui fait place à la transcendance. L'économie, toujours associée à la rareté des ressources, renvoie à cette expérience existentielle de la limite. L'économie sollicite ainsi, plus que la capacité de gestion, la capacité de création. L'économie répond chez l'homme, plus qu'à son besoin de consommation, à sa qualité de créateur. La vie n'est pas le contraire de la mort, mais sa traversée, avons-nous posé. De même, on peut dire que l'économie n'est pas la gestion de la rareté, mais sa traversée. Elle n'a pas pour but la satisfaction des besoins, mais le développement de la capacité créatrice de l'humain. Elle ne cherche pas à combler un manque, mais plutôt à le mettre en mouvement. Elle ne vise pas à réduire la finitude humaine, mais à la transformer en expérience de transcendance. Elle n'est pas la réduction des limites, mais leur engendrement, en ce sens qu'elle en fait jaillir du nouveau. L'économie s'inscrit ainsi au sein même de la vie, conçue comme traversée de la mort. L'économie comme engendrement de la limite, voici une belle définition qui ne sera pourtant jamais retenue dans un manuel d'économie, et pour cause. Car le manuel donne des outils au service d'une capacité opérationnelle. Or, l'engendrement de la limite n'appelle pas la capacité opérationnelle de l'humain, mais sa capacité existentielle. L'économie est affaire de manuel, mais elle a aussi besoin de philosophes et de poètes, de romanciers et de conteurs, car elle relève de la vie dans ce qu'elle a de plus matériel et de plus immatériel, de plus maîtrisable et de plus immaîtrisable, de plus prévisible et de plus imprévisible. L'économie a besoin de la rationalité scientifique des modèles qui décrivent et décortiquent la réalité, mais également de la rationalité mystique des fables et des romans, qui se servent de la contradiction pour affirmer et de la métaphore pour expliquer. Autrement dit, l'économie relève de la chair et de l'esprit, car son objet principal, qui est la limite, est marqué par cette même ambivalence. En économie, la limite peut renvoyer à la rareté des ressources, relevant de ce fait d'une dimension matérielle. On est là dans une vision classique de l'économie qui consiste à satisfaire des besoins. L'humain est alors conçu à travers sa capacité à accéder aux biens nécessaires pour les satisfaire. Mais la limite peut aussi renvoyer à une expérience qui dépasse la seule dimension matérielle. En produisant un manque, elle suscite également un désir. Or, le désir est d'un autre ordre que le besoin. Le désir met en mouvement, tandis que le besoin appelle la satisfaction. Le désir libère de l'énergie, le besoin en consomme. Le désir sollicite la capacité créatrice de l'humain. Le besoin mobilise surtout sa capacité d'accès aux biens nécessaires. La différence entre ces deux approches se traduit aussi bien dans le rapport à l'incertitude. Pour accéder aux biens, il faut surtout réduire, voire supprimer l'incertitude, tandis que pour créer du radicalement nouveau, il faut plutôt apprendre à accueillir l'incertitude. Car sans incertitude, pas de création possible. Cette ambivalence propre à la limite se retrouve au sein même de l'économie, laquelle devra réduire et à la fois accueillir l'incertitude, autrement dit, gérer et à la fois engendrer la limite. La réduction de l'incertitude et la gestion des limites constituent, comme je l'ai déjà dit, les dimensions de l'économie habituellement évoquées. Pourtant, je pense que l'économie relève, en même temps et paradoxalement, des deux autres dimensions, celle d'accueillir l'incertitude et celle d'engendrer la limite. Séparer ces dimensions revient à vouloir séparer la chair de l'esprit. Cette séparation relève d'une approche dualiste de la vie. Ce n'est pas la mienne. Je pense que l'économie est...